on est en retard, lance Camille en jetant un œil, un peu angoissé, à son téléphone. Et à côté d'elle, Jules, lui, il est complètement ailleurs, le regard perdu dans le paysage, et il répond tranquillement, ou en avance.
J'adore.
Cette petite scène, elle est tirée d'une des notes qu'on a sous les yeux, et je trouve qu'elle capture parfaitement un changement de mentalité, un truc assez profond dans notre façon de voyager.
Oui.
On ne vient plus quelque part juste pour voir, mais vraiment pour ressentir.
C'est exactement ça. Et c'est précisément ce qu'on va explorer aujourd'hui. On a devant nous une belle pile de documents, des analyses stratégiques de BPI France, des rapports de la Direction générale des entreprises, pas mal d'études chiffrées.
Oui, c'est dense.
C'est dense, et notre mission, c'est de décortiquer ce qu'on appelle le slow tourisme. On va essayer d'aller bien au-delà de l'image de carte postale pour comprendre en quoi c'est une opportunité, une vraie opportunité économique et stratégique.
Pour les territoires et les entrepreneurs, donc.
Pour les territoires et pour les entrepreneurs qui osent parier dessus.
Alors justement, mettons les pieds dans le plat. Le slow tourisme, concrètement, qu'est-ce que c'est? Parce que bon, ça sonne un peu comme un concept marketing, non? Est-ce que c'est juste faire la même chose, mais ben moins vite?
C'est une bonne question. Et la réponse, c'est non, en fait. C'est beaucoup plus que ça. Les sources le définissent comme l'art de voyager en prenant son temps. Mais, attention, ça implique un vrai changement de logiciel.
D'accord.
Les grands principes sont assez clairs. On va privilégier l'immersion totale plutôt que le survol.
Fini le tourisme checklist.
Voilà, c'est ça. On opte pour des transports doux, le vélo, la marche. On va manger et acheter chez les producteurs du coin. Et surtout, on cultive un respect profond pour le lieu et ses habitants. Il y a une source qui utilise une image que je trouve très parlante. Oubliez les bus de touristes et la bousculade. Imaginez juste un paysage, des visages, des histoires locales.
D'accord, je vois l'idée, mais ce n'est pas complètement nouveau aussi. J'ai quand même l'impression qu'on en parle depuis un petit moment.
C'est vrai, c'est vrai. Ce mouvement ne sort pas de nulle part. Les documents le rattachent à des courants plus larges et même plus anciens. Tu te souviens du mouvement Slow Food?
En Italie, oui.
Voilà, né en Italie dans les années 80. C'était une révolte contre la malbouffe, contre l'uniformisation du goût, pour défendre la gastronomie locale.
Et les città slow aussi, ces villes qui ralentissent?
Exactement. Ce réseau de villes qui revendique un art de vivre apaisé. Eh bien, le slow tourisme, c'est l'application de cette philosophie au voyage. C'est la réponse à ce que les sources appellent un ras-le-bol silencieux face au tourisme de masse.
Un ras-le-bol qui semble avoir atteint un point de rupture. Les textes, ils insistent vraiment sur plusieurs déclencheurs. Il y a d'abord cette saturation, cette espèce d'usure du tourisme express, ce modèle où on coche des cases sur une liste et qui finit par épuiser tout le monde, les lieux qui sont surexploités et les voyageurs eux-mêmes qui rentrent chez eux plus fatigués qu'au départ.
Exactement. Et à ça, il faut ajouter une prise de conscience aujourd'hui beaucoup plus forte de l'urgence climatique. Le secteur du tourisme, avec l'aérien notamment, pèse très lourd dans les émissions de gaz à effet de serre.
Bien sûr.
Et puis, il y a eu un accélérateur, totalement inattendu, la crise sanitaire.
Ah oui, forcément.
En nous clouant au sol, elle nous a forcés à regarder ce qu'il y avait autour de nous, à redécouvrir les trésors de nos propres régions.
C'est vrai.
Et enfin, il y a cette lame de fond sociologique. Une quête de sens, de qualité, d'authenticité dans tout ce qu'on consomme. Le voyage n'y échappe pas.
Et c'est là que j'ai envie de rejouer la scène du début. Jules, lui, il est dans la contemplation, mais Camille, avec son téléphone, elle pense sans doute à autre chose. Elle se pose la question qui fâche un peu.
Ah.
Et économiquement, ça tient la route? Parce que c'est bien joli de vouloir ralentir, mais est-ce que ça peut vraiment créer de la valeur?
Et c'est là que ça devient pour moi vraiment intéressant. Parce que la réponse des sources est un grand oui, et de manière assez spectaculaire. Elles mettent en avant une étude de la DGE sur le cyclotourisme, qui est un peu le porte-drapeau du slow tourisme.
Oui.
Et les chiffres sont, ils sont éloquents.
Ah, je les ai sous les yeux et franchement, c'est assez bluffant. On parle de 4,6 milliards d'euros de retombées économiques pour le tourisme à vélo en France.
C'est énorme.
Mais le chiffre qui m'a vraiment scotché, c'est la dynamique. Plus 46% en 10 ans. Attends, on est d'accord. On est en train de dire qu'en encourageant les gens à ralentir, on a en fait accéléré la croissance économique de ce secteur. C'est complètement contre-intuitif.
C'est le paradoxe au cœur de tout le modèle. Et si on décortique un peu, on comprend pourquoi ça marche. La création de valeur, elle se fait à plusieurs niveaux. Premièrement, la revitalisation locale.
C'est-à-dire?
Un cyclotouriste qui traverse un village, il ne va pas s'arrêter dans une grande chaîne hôtelière en périphérie, non. Il va dormir dans le gîte du coin, acheter son pain à la boulangerie, boire un verre au café de la place.
Il va visiter l'artisan du coin.
Voilà. L'argent qu'ils dépensent irrigue directement et profondément l'économie locale.
Donc si je résume, on a peut-être un peu moins de visiteurs, mais ils restent plus longtemps et leurs dépenses sont beaucoup mieux réparties sur le territoire. C'est ça l'idée?
C'est exactement ça. Et le deuxième point, c'est que c'est un levier d'innovation incroyable pour les PME. Face aux géants du tourisme qui se battent sur les prix, les volumes, les petits acteurs peuvent se différencier en proposant des expériences uniques.
D'accord.
On ne vend plus une chambre. On vend une rencontre avec un viticulteur, un cours de poterie, une balade comptée en forêt. La compétition se déplace du prix vers la qualité, vers l'originalité.
Mais est-ce que ce n'est pas, au fond, un tourisme un peu de niche? Un truc un peu élitiste, pour des citadins aisés en quête de sens, un peu bobo sur les bords?
C'est une critique qu'on pourrait faire, oui, et les sources l'effleurent. Mais ce qu'elle montre, c'est que la valeur créée bénéficie à toute la communauté locale, pas seulement aux touristes.
Ah oui, c'est un bon point.
Ça permet de maintenir des commerces, des services, des savoir-faire dans des zones rurales qui, sinon, se dépeupleraient. Et ça nous amène au troisième pilier, la croissance durable. On ne mesure plus le succès au nombre de selfies pris devant un monument.
Non.
Non, on le mesure à l'impact positif à long terme sur l'écosystème local. D'ailleurs, une des sources à cette phrase que je trouve géniale. Le slow tourisme, ce n'est pas ralentir l'économie, c'est la rendre respirable.
La rendre respirable, j'adore, ça change complètement la perspective. Bon, toute cette théorie est fascinante, mais j'imagine que la question que tout le monde se pose, c'est est-ce que ça marche vraiment? Est-ce qu'on peut bâtir une entreprise solide là-dessus? Et justement, les documents nous donnent un exemple parfait avec Slow Village.
Oui. C'est un cas d'école. Slow Village, c'est fondé par David Letellier. C'est une chaîne d'hôtellerie de plein air qui a pris le contre-pied total du camping classique. Leur concept est à la fois simple et radical. Des sites sans voiture.
Alors ça, quand on lit ça, on se dit « quelle galère ! Comment on fait avec les enfants, les bagages ? Ça a l'air d'être une contrainte énorme !»
Et c'est là que le coup de génie opère. Il transforme cette contrainte en une expérience. Quand tu arrives, tu laisses ta voiture au parking, à l'entrée.
D'accord.
Et tout le reste se fait à pied, à vélo, avec des petites carrioles. Le résultat, c'est que le site est incroyablement calme. Tu n'entends pas des portières qui claquent, des moteurs qui tournent.
Tu entends les enfants qui rient, le vent dans les arbres.
C'est ça. Ça change complètement l'ambiance.
Et ça ne s'arrête pas là. Si j'ai bien lu, l'expérience est totale. Ils ont des potagers partagés.
Exactement. Imagine, tu sors de ta petite cabane en bois le matin et tu vas cueillir tes tomates, tes herbes pour la salade du midi.
Génial.
La restauration, c'est du bio, du circuit court. Les hébergements, ce sont des tiny houses, des cabanes en matériaux écologiques qui se fondent dans le paysage. Ce n'est pas juste un vernis vert, quoi. C'est l'ADN du projet.
Ce qui est fou, c'est que ce modèle, qui pourrait sembler un peu utopique, a réussi à convaincre des poids lourds financiers comme BPI France ou BNP Paribas.
Tout à fait.
Ça veut dire que les chiffres sont là. Le modèle est rentable.
Absolument. C'est la preuve que cette philosophie n'est pas déconnectée de la réalité économique. Ils ont réussi à séduire une double clientèle. D'un côté, les citadins en quête de déconnexion et de sens, et de l'autre, des campeurs plus traditionnels qui sont simplement attirés par la qualité des installations et le calme exceptionnel. C'est la démonstration qu'on peut allier rentabilité, croissance et une vision écologique et sociale très forte.
D'accord, donc un acteur comme Slow Village peut être le moteur, mais pour que ça fonctionne à l'échelle d'un territoire, il faut tout un écosystème. Et c'est là qu'intervient un autre paradoxe assez amusant. Le numérique, qu'on associe plutôt à la vitesse, devient un allié clé de la lenteur. Les sources parlent d'un outil en particulier, Data Tourisme.
Oui, Data Tourisme, c'est une initiative qui est portée par le réseau des offices de tourisme, ADN Tourisme. Pour faire simple, c'est une immense base de données ouverte en open data qui centralise toutes les informations touristiques de France.
D'accord.
Le but, en gros, c'est de tout mettre au même endroit. Les sentiers de randonnée, les petits producteurs que personne ne connaît, les artisans d'art cachés au fond d'une ruelle, les événements culturels locaux, vraiment tout.
Mais attends, si on met toutes ces pépites, tous ces coins secrets sur une carte accessible à tous, est-ce qu'on ne risque pas de créer un effet Instagram, de transformer ces lieux authentiques en nouvelles attractions surfréquentées et de tuer ce qu'on cherche à protéger?
C'est le risque, et c'est une question cruciale. Le garde-fou, c'est la manière dont l'info est utilisée. L'objectif, ce n'est pas de créer un top 10 des spots secrets.
Non.
L'objectif, c'est de donner les clés à des développeurs locaux pour créer des applications sur mesure. Par exemple, une appli qui te propose un circuit à vélo qui relie trois fermes où tu peux déguster du fromage, ou une carte interactive qui te montre les ateliers d'artisans ouverts aujourd'hui dans un rayon de 10 km.
Ah, je vois.
L'outil ne sert pas à concentrer les flux, mais au contraire à les disperser, à rendre visible la richesse d'un territoire pour que chacun puisse construire son propre chemin à son propre rythme.
C'est le numérique au service du réel et non l'inverse. C'est subtil. Mais les outils ne suffisent pas. Ce qui ressort très fort des documents, c'est l'importance du collectif. Ça ne marche que si tout le monde joue le jeu.
C'est le nerf de la guerre. Et c'est pour ça que des institutions comme la DGE et l'ADEME, l'Agence de la Transition écologique, organisent des événements comme le colloque « Osons le slow tourisme ». Tous les acteurs, l'hôtelier, le restaurateur, le guide de montagne, mais aussi le maire du village et le représentant de la région qui peut débloquer les financements.
C'est dans ces moments-là que les choses se connectent, j'imagine. Que le propriétaire de gîte découvre qu'il y a un producteur de miel bio à 2 km de chez lui et qu'ils peuvent créer une offre commune.
Précisément. C'est là qu'on partage les bonnes pratiques, qu'on identifie les blocages et qu'on construit une stratégie territoriale cohérente. Dans un des comptes rendus, il y a une phrase d'un élu local qui m'a vraiment marqué. Il dit « Avant, on voulait plus de visiteurs. Maintenant, on veut qu'ils restent. Et surtout, qu'ils repartent différents. »
C'est beau.
Cette phrase, elle résume tout. On n'est plus dans une logique de flux, on est dans une logique de transformation.
Si on fait la synthèse de tout ça, il est clair que le slow tourisme, ce n'est pas du tout un retour en arrière, un truc un peu nostalgique.
Non, non, pas du tout.
C'est même tout le contraire. On ne parle pas de revenir à la bougie et au transport à cheval.
Non, absolument pas. C'est un mouvement qui est résolument tourné vers l'avenir. Il s'agit de faire des choix conscients sur le type de développement qu'on veut, sur la qualité de l'accueil qu'on propose et sur le sens qu'on donne au voyage.
Et cette idée de choix, ça me ramène directement à notre scène d'ouverture. L'élu local disait vouloir que les visiteurs repartent différents. Dans une autre note, on retrouve cette idée, formulée différemment, à Camille qui conclut « Donc le slow tourisme, ce n'est pas revenir en arrière ».
Oui.
Un autre interlocuteur répond « Non, c'est choisir où l'on va ». Et cette phrase fait écho à celle de Jules au tout début. Finalement, la question n'est pas de savoir s'ils sont en retard ou en avance. La vraie question que pose le slow tourisme, c'est « Quelle direction choisit-on ? »
C'est la question fondamentale. Et l'objectif ultime, si on lit entre les lignes de toutes ces sources, c'est de proposer des expériences de reconnexion.
Reconnexion.
Reconnexion au lieu, en prenant le temps de les comprendre vraiment. Reconnexion aux autres, à travers des rencontres humaines authentiques. Et finalement, la plus importante peut-être, reconnexion à soi-même, loin du bruit et de l'agitation permanente de nos vies.
Ce qui veut dire que les entrepreneurs qui se lancent là-dedans ne vendent plus seulement des nuitées ou des activités ?
Non, ils proposent une nouvelle relation au monde. Et c'est pour ça que ce modèle économique est si puissant et si pertinent aujourd'hui. Il est en parfaite adéquation avec les attentes profondes de notre époque. Une quête de sens, de sobriété choisie et d'ancrage dans le réel. C'est une réponse concrète à un besoin fondamental.
Et ça nous laisse avec une dernière pensée, une question pour prolonger la réflexion. Si le slow tourisme nous apprend à valoriser la qualité de l'expérience et du lien humain dans le voyage, quelle est la première chose que l'on pourrait ralentir dans notre propre vie professionnelle pour y retrouver là aussi plus de sens et de valeur durable ?